Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous vous proposons de parler des addictions au pluriel, car ces dépendances peuvent revêtir des formes multiples en fonction de la substance ou de l'activité dont le sujet ne parvient plus à se passer. Ces habitudes, plaisirs du quotidien qui prennent de plus en plus de place, se révèlent nécessaires, dévorants et un jour aussi indispensables que néfastes. Fumer, boire, prendre des cachets, passer des heures devant un écran, jouer de l'argent, multiplier les relations sexuelles de façon compulsive, coup de projecteur sur les conséquences pour la santé de ces dépendances pathologiques. Quelles substances sont concernées? Quelles prises en charge sont pertinentes? Et quelles pistes peut-on privilégier pour s'en défaire? Des addictions qui isolent, qui fragilisent, qui mettent en péril, dans certains cas, la cellule familiale, la sécurité financière et qui sont encore souvent stigmatisées. Car nous verrons aussi au cours de cette émission que l'accompagnement et le traitement des personnes dépendantes passe également par un changement du regard porté par l'entourage et par la société. Et l'on attend vos témoignages sur la page Facebook de l'émission. Question que vous pouvez aussi directement nous poser au 33 1 84 22 75 75. Addiction, réalité ignorée, c'est le titre du trimestriel Votre Santé Magazine, partenaire de notre émission aujourd'hui. Et avec nous en studio pour répondre à toutes vos questions, professeur Philippe Jory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, addictologue, Philippe Jory, également professeur de médecine générale à l'Université Paris-Descartes. Et tout à l'heure, nous serons en ligne avec la Guinée. Nous retrouverons le professeur Mamadi Mori Keïta, psychiatre addictologue à l'hôpital national Donka de Conakry. En fin d'émission, nous vous proposons un coup de projecteur sur l'épidémie de virus Zika en Thaïlande. L'Institut Pasteur et le CNRS viennent de conduire sur place une étude publiée par la revue The Lancet. Nous retrouverons en ligne de Bangkok Henrik Salier, chercheur au sein de l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur.
Priorité santé sur RFI.
Juste avant de donner la parole à nos invités, on vous retrouve, professeur Amadou Gallo Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, président du comité scientifique du magazine Votre Santé. Encore beaucoup de personnes en Afrique pensent que, eh bien, les addictions, ce n'est pas chez eux.
Eh oui, mais elles se trompent, parce que les addictions sont connues pour la cigarette, l'alcool, les drogues et autres. Ça, c'est une réalité qui est là, d'autant plus que les services de psychiatrie en ont pris conscience et créent même des unités dédiées aux addictions. Ça, c'est une chose qui est tout à fait compréhensible. Mais le volet sur lequel il y a une certaine originalité, c'est l'addiction aux nouvelles technologies. Et on voit maintenant s'installer dès le plus jeune âge des addictions aux smartphones, aux Wi-Fi et autres, qui sont en train de bouleverser le schéma scolaire des enfants, et addiction pour laquelle il n'y a pas beaucoup de réflexion. C'est pour ça que nous avons voulu un peu lancer cette alerte de réflexion.
Avec justement, vous disiez, les premiers services qui s'ouvrent en addiction, on va dire, en psychiatrie, pour la question des écrans ou de la technologie, on est plus dans des mesures, professeur Gallo Diop, d'éducation.
Oui, d'éducation, de sensibilisation, mais je crois que là aussi, on va se retrouver, on est dans le même niveau de pollution, disons, que les pays occidentaux. Et parlant de pays en développement, on pense que c'est un problème
annexe.
Qui est annexe, alors qu'il est absolument présent.
Eh bien, on va en parler pendant notre émission. Merci beaucoup, professeur Amadou Gallo Diop. Je rappelle que vous êtes président du comité scientifique du magazine Votre Santé.
RFI.
Professeur Philippe Jory, d'emblée, on l'a compris, addiction au pluriel, derrière ce terme d'addiction, des réalités très différentes. Est-ce qu'on aborde justement de la même manière, on l'a entendu tout à l'heure avec le professeur Gallo Diop, les dépendances, on va dire, comportementales, comme cette fameuse dépendance aux écrans, c'est son smartphone, qu'une dépendance à une substance, à un produit, pour schématiser, à une drogue?
Bah, théoriquement, on les aborde de la même façon à partir du moment où c'est le substratum, il est le même. C'est-à-dire que les addictions, on voit bien les patients, ils passent d'une addiction à l'autre. Quand il y a un fond d'addiction, que ce soit comportemental, que ce soit à un produit, le problème, il est le même, de fond. Après, le produit lui-même entraîne des problèmes supplémentaires. Donc évidemment, l'abord sera différent en fonction du produit, en fonction de ce que le produit donne. On va pas traiter de la même façon un patient qui a du problème avec le tabac, ou un problème avec l'héroïne, avec les médicaments, sont pas les mêmes. Mais le fond est le même. Et d'ailleurs, on a bien découvert ça, c'est les années 90, c'est 1990, Goodman a écrit une grille, ce qu'on appelle les critères de l'addiction selon Goodman, qui montre bien que, en fonction de ces critères, quand on les lit au fur et à mesure, on se rend compte qu'on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre alcool, on peut mettre nourriture, on peut mettre sexe, on peut mettre travail. Le mot change, mais je vous donne par exemple le premier critère, c'est impossibilité de résister aux impulsions à réaliser ce type de comportement. Boire, manger, avoir du sexe, travailler. Donc là, et donc c'est le problème. Je veux dire que c'est pareil.
Et derrière tout cela, il y a quoi ? Il y a une attirance physique, chimique, il y a une réaction chimique dans l'organisme qui suscite cette envie irrépressible ?
Alors nous, on dit que c'est polyfactoriel. C'est-à-dire qu'il y a du génétique, il y a du culturel, il y a de la famille, et puis il y a la personne elle-même, qui évidemment est unique et différente de chaque autre personne. Donc c'est un ensemble qui fait qu'on a ces problèmes d'addiction. Mais après, le cerveau, il réagit en fonction de tout ça. Mais c'est le problème de l'œuf et de la poule. Mais en tout cas, le cerveau il réagit. On sait bien, on connaît bien le circuit maintenant de la dopamine, le circuit de la récompense. Donc il est le même chez tous ces patients-là.
Avec toutefois, professeur Philippe Jury, tout à l'heure vous avez utilisé le mot de génétique, des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres.
Il y a une prédisposition, il y a des gènes de prédisposition. Il n'y a pas des gènes de l'alcoolisme, il n'y a pas des gènes de
comme
du tabagisme.
Comme a voulu le croire Zola à son époque.
Oui, il y en a pas. Il y a des prédispositions, c'est évident. Mais ils vont, comme tous les gènes, quoi. Quand il y a une prédisposition, ils vont s'exprimer ou non en fonction du contexte.
En fonction des moments de la vie. Il y a des moments où on est plus fragile. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où on est plus fragile en fonction des circonstances, en fonction des cheminements personnels? Et puis, il y a des moments clés dans l'existence. Quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on parle forcément des ados, des adolescents.
Évidemment qu'il y a des moments clés dans la vie de tout individu, de toute personne. Nous, on appelle ça les EVS, les événements de vie stressants. L'adolescence est un événement de vie stressant. Évidemment, un mariage, les choses positives, les choses négatives sont des événements de vie stressants. Un deuil, un chômage.
Et même dans certains cas, une naissance.
Mais évidemment, tout événement, qu'il soit positif ou négatif, est stressant. Et il y en a qui vivent le stress différemment. Il y en a au niveau des émotions. Il y en a qui arrivent à gérer et d'autres qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Alors c'est difficile à comprendre, mais on sait très bien que les patients qui ont des problèmes d'émotions phénoménales qui n'arrivent pas à gérer, ils vont être beaucoup plus sensibles. Ils vont être beaucoup plus sensibles à tous ces produits qui vont calmer leurs émotions, qui vont leur permettre éventuellement de ne pas affronter la réalité aussi.
Avec aussi des codépendances, des fois plusieurs produits, plusieurs addictions combinées ?
Sûrement, on a tous connaissance des patients qui ont plusieurs addictions, qui ont des problèmes psychiatriques de comorbidité. C'est évident. Tout patient qui a des problèmes de dépendance a obligatoirement des problèmes psychiatriques au sens littéraire du terme.
Pas forcément une maladie mentale derrière.
Non.
Alors justement, on va passer tout de suite à des cas concrets, si vous le voulez bien, professeur Philippe Jury, puisqu'on va prendre les auditeurs de Priorité Santé en ligne.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce premier auditeur est en ligne du Congo-Brazzaville, de la capitale. Un Brazzaville, précisément, c'est Atipo. Bonjour Atipo.
Bonjour madame.
On vous écoute, le professeur Jury vous écoute.
Alors en fait, mon cas,
oui.
Il s'agissait de la dépendance au Tramadol. C'est un comprimé que je prenais au départ pour... pallier à mes fatigues sur le chantier parce que je suis ingénieur en travaux publics. Et après, ça s'est étalé sur une longueur, sur une durée d'environ 2 ans où j'en prenais régulièrement tous les jours. Et cela a créé en moi une dépendance à tel point que je ne pouvais plus m'en passer. Donc, vous causer avec les gens, rester au milieu social avec les gens, faire quoi que ce soit, il me fallait le prendre.
Atipo, vous dites pour la fatigue, mais ce n'est pas pour la fatigue qui est prescrit normalement le tramadol, c'est plutôt pour des douleurs. Comment se fait-il que vous ayez eu ce produit entre les mains?
En fait, c'est l'un de mes manœuvres qui va me le proposer, parce que en le prenant, ce qu'il m'avait dit au départ, c'était ça, c'est que ça devait aider dans les courbatures. Quand je travaille, parce qu'après, j'avais des courbatures chaque fois que je travaillais quand je terminais le matin.
D'accord.
Et effectivement, quand j'en prenais, le matin, je me réveillais. Déjà, il me permettait de ne pas trop dormir. Et je me réveillais, j'étais en pleine forme, en sorte que je sentais qu'il y avait une autre force qui m'aidait à mieux travailler, quoi, à résister, parce que je restais debout tout le temps.
Et aujourd'hui, vous en parlez au passé, ça veut dire que vous avez réussi à arrêter?
Oui, je n'en prends plus, c'est ce que j'avais dit à l'ancienne, je n'en prends plus, ça fait plus de 8 mois déjà, parce que j'avais eu quelque chose qui s'est passé, j'ai changé d'environnement, et entre-temps j'étais allé au Cameroun, et là-bas j'ai croisé un pasteur, M. Henri Méné, et il m'a vraiment beaucoup aidé, ça a eu un coup sur mon comportement du coup, j'ai fait volte-face, je ne peux pas expliquer ça parce que je n'arrivais pas à me décider seul.
C'est d'en parler avec quelqu'un qui vous a permis en quelque sorte de décrocher.
Oui, il m'a vraiment beaucoup aidé par ses manières, mais je veux dire que dans tout cela, je reconnais qu'il y avait une aide quand même surnaturelle, sinon de mes efforts, je ne me voyais pas sortir de ça, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises, c'était pas possible.
Pour vous, il y a une puissance mystique qui vous a aidé à vous en sortir. Est-ce que vous avez une question à adresser au professeur Jory?
Oui, j'ai environ 3 questions à adresser au professeur.
Alors, allez-y, Atipo.
La première, c'est de savoir, parce que quand j'en prenais, je faisais des crises qui étaient un peu comparables à des crises d'épilepsie. Parce que j'arrivais à prendre 10 comprimés en une prise de 225 mg. Donc, je me demande, est-ce que c'était réellement cette surdose-là qui pouvait me faire faire ces crises d'épilepsie-là? Je mordais la langue, j'avais des blessures partout au sortir de ces crises. Et deuxièmement, je vais demander au professeur si est-ce que cela peut être à l'origine d'une crise cardiaque? Est-ce que vous proposez un arrêt cardiaque à une personne qui en consomme au niveau où j'étais arrivé là?
Alors,
et enfin, la dernière question.
Oui, oui.
Il y a un médecin, la famille m'avait amené auprès d'un médecin là, lors d'une de mes crises. Mmh. Le médecin m'a soupçonné un début d'épilepsie, il m'a prescrit un médicament qu'on appelle la dépatine. Et maintenant, il me disait que ça devait bloquer les crises. Moi, maintenant, je servais cette dépatine pour augmenter mes doses. Ça veut dire que je bloque, je sais que la crise ne va pas m'arriver et ça me permet d'augmenter ma dose. Je me demande, est-ce qu'en le faisant comme ça, la combinaison tramadol, dépatine, ou encore, j'ai découvert aussi qu'en prenant le cube, ça annulait un peu l'effet du tramadol. Quels sont les dangers que j'encourais à ce moment-là?
Vous voilà dites le cube, vous voulez dire le cube d'assaisonnement dans l'alimentation?
Oui, le cube d'assaisonnement. Et ça, je l'ai appris aussi dans la rue qu'il fallait prendre un cube.
Voilà. Vous savez ce qu'on dit souvent dans cette émission, hein, les informations médicales dans la rue, en général, c'est pas très très recommandé. En tout cas, le cube alimentaire pour se soigner, à part pour faire mijoter une soupe, mais sinon, en général, l'indication s'arrête là. C'est bien pour les soupes, mais c'est pas trop pour la santé non plus. En tout cas, sur vos premières questions, Atipo, le tramadol, crise d'épilepsie, ce dont parle justement cet auditeur, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est pas le tramadol qui déclenche la crise d'épilepsie. A priori, c'est plutôt l'arrêt du tramadol. C'est-à-dire, c'est le manque. C'est comme l'arrêt de l'alcool. Ça entraîne un délirium très mince. Pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes et beaucoup de patients. Donc, en fait, c'est plutôt l'arrêt qui déclenche les crises les convulsions, les crises d'épilepsie. C'est pas la maladie épileptique au sens épileptique du terme, mais ce sont des crises d'épilepsie, c'est vrai, tout à fait, et c'est le manque.
Alors c'est des questions de dosage, surdosage.
C'est-à-dire que quand on prend beaucoup de tramadol et qu'on arrête d'un coup, c'est un peu comme pour les benzodiazépines, quand on arrête d'un coup et qu'on a des fortes doses, on a un risque de faire des convulsions, d'une crise d'épilepsie. Mais on n'est pas épileptique pour autant.
Est-ce que c'est pour autant qu'il faut se voir prescrire un médicament pour l'épilepsie, dédié à l'épilepsie, comme la dépakine?
Écoutez, non, parce
ça,
que
c'est... Il faut voir avec le médecin, mais ça
c'est le médecin qui décide en fonction de chaque patient. Mmh. Mais il est évident que si on prend du tramadol, on n'a pas besoin de prendre de la dépakine. Maintenant, la dépakine a d'autres indications qui peut-être sont sous-tendues, comme par exemple des troubles bipolaires ou d'autres maladies. Donc, c'est un autre problème. Ce qu'il faut dire, c'est par rapport au tramadol, qui est un opiacé dit faible, il y a énormément de problèmes en France avec le tramadol, parce que le tramadol, ça n'est pas simplement un antalgique, c'est un opiacé. Comme tous les opiacés, c'est anxiolytique, c'est aussi un petit peu antidépresseur, mais ça calme les angoisses, ça détend, donc ça a des fonctions qui sont pas obligatoirement prescrites au départ. La fonction d'antalgique, c'est pas obligatoirement, on prescrit pas du tramadol pour que les gens soient plus calmes, plus détendus, ou pour qu'ils se sentent mieux. Donc les patients, ils ressentent ça, et après ils le prennent plus pour la douleur, mais ils le prennent pour être mieux. Et donc ça, c'est le problème de la drogue, de la substance.
Alors justement, ce manque dont parle Atipo pour éviter ces crises qu'il associe à de l'épilepsie, donc
eh ben, il faut pas arrêter d'un coup,
c'est non. Bien ça, il faut un sevrage.
Si vous prenez un ou deux comprimés, vous risquez rien. Mais si vous prenez 10 comprimés, des doses fortes, il est évident qu'il faut pas arrêter d'un coup. Il faut arrêter progressivement. Mais comme, je vous dis, comme les benzodiazépines. Et comme beaucoup de médicaments.
Voilà, Atipo, pour cette réponse du professeur Jory. On vous souhaite une très bonne journée à Brazzaville. On va prendre un autre auditeur. On va essayer de pas être trop long pour pouvoir en avoir un maximum en ligne, pour donner un maximum de réponses. C'est Yougou qu'on retrouve au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour, Yougou. Yougou, en ligne de Yaoundé, on vous écoute. Bonjour. Non, on ne vous entend pas. On va partir pour la Guinée. On essaye de vous rejoindre, Yougou, dans quelques minutes. On prend Pépé à Conakry, en Guinée. Bonjour, Pépé.
Oui, bonjour, Caroline Paré.
On vous écoute, Pépé. Le professeur Philippe Jory vous écoute.
En fait, moi, c'est à propos de mon smartphone et des réseaux sociaux. En fait, je n'arrive pas à m'en passer. À chaque fois, je me connecte. À chaque fois, j'ai envie de me connecter, j'ai envie de chatter, de parler avec les gens, de me connecter sur mes emails et autres. Franchement, ça m'ennuie et j'ai envie d'arrêter, mais je ne peux pas. Et là, ça bouleverse mon stage, parce que là, je suis en stage auprès du Rural de Guinée. Et là, ça me préoccupe. Franchement, je ne sais pas quoi faire.
Professeur Philippe Jory, Pépé qui est préoccupé, hein, qui, on va dire, son smartphone lui gâche la vie et met en péril ses projets d'études et de formation. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ?
Là, vous voyez, on est entièrement dans les critères de Goodman sur l'addiction. Et on est très démunis par rapport à ça. Quand on habite à Paris, on conseille de faire des thérapies comportementales et cognitivistes qui permettent justement de se détacher. Ce sont des thérapies qui fonctionnent bien. Quand on est
en Guinée,
ça me semble beaucoup plus compliqué de dire qu'il faut faire des TCC, des thérapies comportementales et cognitivistes. Alors il n'y a pas de médicaments pour bloquer ça. Ces questions. Alors, il y a aussi des groupes. Et peut-être qu'il faut créer des groupes, comme on a créé les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Ça marche dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Vous savez que les narcotiques anonymes, ils sont 1 million en Iran. Est-ce que vous imaginez ? On peut pas imaginer à cause de l'opium, ces opiomanes. Et donc, on peut imaginer de faire des groupes de parole. Donc, faut parler, en fait.
Être avec une communauté d'amis, si vous avez des amis du même âge que vous, Pépé, ou d'autres, vous le voyez, vous en parlez avec eux.
Et puis
eux
voir
aussi
un psy
vous disent qu'ils
peut,
en ont marre. Et puis essayer de voir auprès de votre médecin s'il peut vous mettre en contact avec un psychologue qui pourrait peut-être lui aussi être à l'origine de la création de ce groupe.
Oui, je crois que c'est une bonne idée de pouvoir parler, en fait. Faut parler de ça, comme il fait actuellement au micro.
Déjà, vous avez été capable de le dire.
C'est important, il a pris conscience
exactement.
Déjà du problème. C'est
parce
la première
que
étape.
Le déni, c'est très fréquent.
Oh là là.
Surtout quand on acquiert un objet technologique qui peut être un signe extérieur pas forcément de richesse.
Mais le déni
voilà.
C'est évidemment, c'est de dire, moi j'arrête quand je veux. Là, il a pris conscience qu'il n'arrive pas à arrêter.
Donc c'est déjà le premier pas. Le premier pas est franchi. Et ben voilà ce qu'on peut.
Faut
demander de l'aide auprès de vous, voir un médecin, quelqu'un dans votre entourage en contact avec un psychologue, Pépé.
Oui.
Très bonne journée à vous à Conakry. On a retrouvé Yougou au Cameroun à Yaoundé. Bonjour Yougou.
Oui, bonjour Caroline.
Cette fois-ci vous êtes bien avec nous. Le professeur Philippe Jory vous écoute.
Oui, bonjour à tous les invités aussi.
Bonjour. On vous écoute.
Oui, moi j'ai justement une préoccupation en fait pour ma consommation en cannabis, parce que cela ne date pas d'aujourd'hui que moi je consomme du cannabis. Ça fait actuellement 10 ans que moi j'en consomme du cannabis. Et j'aimerais savoir aussi par les spécialistes si cela pourra affecter mon état de santé à long terme ou bien je ne sais pas, puisque moi je n'ai jamais eu de problème particulier quand je consomme cela en fait.
Vous en consommez combien? C'est une consommation quotidienne? Chaque
oui,
jour?
C'est une consommation quotidienne, parce que moi je peux en prendre peut-être 2 en 3 joints, peut-être comme ça, par jour.
Pendant la journée, vous commencez avec en fumant et vous en fumez autour de la journée?
Non, la journée je ne fume pas, je fume souvent beaucoup plus en soirée.
Le soirée. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne fumez pas?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe si vous ne fumez pas, Yugo?
Non. Non, rien du tout se passe. Il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas rien.
Mais vous avez essayé pendant certaines périodes de vous arrêter?
Oui, j'ai essayé pendant une période, mais c'était une période à court terme, si je peux le dire. Et quand j'ai repris, ça n'a même pas. Cela m'a fait de si dramatique en moi.
Et vous avez une question, Hugo, au professeur Jory, justement, sur cette consommation quotidienne de cannabis?
Oui, c'est ça ma préoccupation, en fait, c'est que je voudrais ça, c'est que ma consommation en cannabis peut affecter sur ma santé à long terme. Et si je voulais bien aussi arrêter, si c'est possible, et quelles sont les manières, et quelles sont les tactiques que je peux éviter aussi à long terme.
Professeur Philippe Jory, est-ce qu'on peut évaluer l'impact sanitaire du cannabis?
Sûrement. On sait que d'un point de vue physique, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire que si ce n'est comme le tabac, le fait de combuster, eh bien, ça entraîne des problèmes au niveau de la circulation, au niveau du cœur, au niveau des artères. À partir du moment où il y a moins d'oxygène quand on combuste, mais bon, quand on combuste du gazon ou du tabac, c'est pareil. Et puis, on sait que ça entraîne aussi des cancers du poumon. Le cannabis, en général, on fume beaucoup plus profondément, on aspire beaucoup plus. On a des cancers du poumon de plus en plus actuellement avec les fumeurs de cannabis. Donc d'un point de vue physique, oui, pas à court terme, mais à long terme, à moyen terme. D'un point de vue psychologique, évidemment que ça affecte la santé psychologique. Ça dépend des doses, ça dépend de la concentration. Il peut y avoir des hallucinations, on peut devenir parano, il y a des tas de complications. Mais en fait, le problème, c'est surtout cognitif. C'est surtout au niveau de la mémoire, et au niveau de tout ce qui est réflexion. On voit bien que ça englue les neurones, pour dire les choses de façon un peu naïve, mais les neurones, ils sont englués. Et quand on fait des tests, on se rend bien compte qu'au point de vue cognitif, les gens, ils ont l'impression de fonctionner comme avant, mais il fonctionne pas du tout comme avant, il fonctionne pas du tout comme les autres. Il y a une diminution qui est progressive et qui va en augmentant. On peut dire aussi que s'il veut savoir comment on peut faire, déjà de se rendre compte que ça peut être toxique, c'est déjà une bonne chose. C'est aussi par rapport au déni qu'il peut arrêter quand il veut. Il faut que ce monsieur réfléchisse sur quelle est la fonction du cannabis pour lui. Est-ce que c'est pour mieux dormir? Est-ce que c'est pour être détendu? Est-ce que c'est pour gérer le stress? Est-ce que c'est pour ne pas affronter la solitude? Est-ce que c'est pour ne pas affronter la réalité? C'est plein de choses comme ça. Donc ça, c'est le boulot aussi des médecins, c'est le boulot des gens qui peuvent l'aider, qui repèrent un peu la fonction du cannabis. Il n'y a pas de dépendance physique au cannabis, c'est-à-dire qu'on peut arrêter. Enfin, ça existe, mais c'est très rare. On peut arrêter. On leur demande pas d'arrêter tout de suite d'un coup. On leur demande de se fixer des objectifs qui soient réalistes pour qu'ils soient réalisables. C'est-à-dire, au lieu de fumer 3 joints, d'en fumer que 2 pendant 15 jours. Et puis de voir qu'avec 2, ça marche pareil. Puis après, 1. Et puis après, 1 jour sur 2. C'est un sevrage très progressif. Mais pour ça, il faut qu'ils soient motivés aussi. Donc il y a un problème de motivation.
Yugo, vous l'avez aujourd'hui, cette motivation? Vous êtes jeune? Vous faites des études?
Oui.
Oui, infirmier.
Oui, j'ai même fait des études des infinies, j'ai même fini ma formation.
Donc c'est important aussi par rapport à votre avenir, si vous voulez rester, on va dire, performant au travail, attentif à vos patients, c'est quelque chose d'important de garder sa vigilance.
Oui, c'est vraiment important.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous avez pris votre décision d'arrêter ou vous n'y êtes pas encore?
Non, je ne l'ai pas encore pour le moment. Mais avec le temps, je crois que ça ira.
Vous voulez dire que ça va aller en continuant de fumer ou ça va aller parce que bientôt vous allez arrêter?
Non, bientôt, c'est proche, puisque je viens d'avoir une relation avec quelqu'un, elle me motive aussi, elle m'encourage aussi à cela, à faire cela.
Donc l'environnement, c'est très important. Votre projet professionnel, votre projet amoureux, c'est important de pouvoir mener ces choses à bien en arrêtant ces mauvaises habitudes.
On voit bien que dans la motivation, il y a différentes étapes. On voit bien que là, il est dans une étape où il commence à se préparer.
De construction.
Donc c'est important. Et après, la préparation, c'est l'action.
Eh ben, on vous dit bonne chance, hein, Yougou, dans tous vos projets. Et une très bonne journée à vous, à Yaoundé. Une auditrice nous a appelé, on va pas bouder notre plaisir parce qu'elles ne sont pas toujours très très nombreuses à notre standard. Alors on retrouve au Sénégal à Ziguinchor, Élie. Bonjour Élie.
Bonjour.
On vous écoute Élie et merci de nous avoir appelé.
Si je suis une rare auditrice, veuillez aller alors.
On en profite, allez-y.
Écoutez, moi je vous appelle, comme j'ai expliqué, c'est que je suis devenue complètement addict, mais alors un mélange de médicaments pour dormir, pour antidépresseurs, régulateurs d'humeur. Donc je suis au Stilnox, qui est tapine, citalopram, rivotril, patati et patata. Et que je vois les conséquences tous les jours. D'abord, j'ai d'abord été commencée et traitée pour quand j'étais anorexique boulimie. Mais en fait, j'ai toujours gardé cette structure-là et aujourd'hui, je suis très maigre d'ailleurs. Donc, les conséquences sont terrifiantes parce que j'agis, mais dans la minute qui a suivi l'agissement, j'ai oublié ce que j'ai fait. Donc, la mémoire est sacrément atteinte et toutes les mémoires sont atteintes et je ne peux plus m'en passer, je fais qu'augmenter les doses.
Mais Élie, quand on vous entend, on entend un discours hyper structuré, une vraie connaissance de votre problème. Ça
oui,
veut dire que vous consultez quelqu'un ?
J'ai 30 années de psychanalyse,
ouais,
plus tout ça. Je suis très au fait de ce qu'il en est de tout ça. Mais comme je vis en plus dans un contexte africain étant française, je prends des coups tous les jours parce que je ne suis pas africaine. Je rentre dans les dédales africains. Et qui m'arrive par moments, si vous voulez, quand je suis excédée, en me disant « je vais dormir ». L'autre jour, je me suis pris 15 Valium, 20 Stilnox, 70 gouttes de Rivotril. J'ai fermé les rideaux qu'on me foute la paix.
Est-ce que vous avez envie de vous en sortir ?
Mais bien sûr que j'ai envie, mais je ne peux pas. La seule chose qu'on me propose, c'est diminuer la dose. Je ne peux pas diminuer la dose, il faut que je dorme. Je pèse 40 kilos, je ne tiens pas debout. Je suis épuisée et m'en sortir sans dormir, c'est pas possible.
Vous avez l'impression d'être dans une impasse.
Ah ben complètement.
Et vous avez un soignant.
En fait, le rivotril,
mais vous avez un soignant auprès de vous qui. Mais... Non, vous n'avez pas de soignant.
Mais même à Paris, j'ai pas de soignant. C'est des distributeurs de médicaments, c'est tout.
Professeur Fille.
Je meurs à ça depuis le début. J'ai toujours eu des problèmes avec les psychiatres. Bon, puis c'est arrivé jusqu'à une tentative de suicide après des électrochocs il y a 3 ans. J'ai fait toutes ces augmentations de dose après 2 burn-out en 2010-2014. Ensuite, on m'a hospitalisé, on m'a fait des électrochocs en 2016. Ça a été la catastrophe. Je me suis bourrée de Rivotril et j'ai attendu le moment où j'allais tomber dans les pommes pour sortir droit dans le métro. Bon, je me suis retrouvée à l'hôpital parce qu'on m'a récupérée dans les escaliers du métro. Et là, je vois que je suis en diminution à vitesse grand V avec tous les problèmes de santé physique que j'ai en plus. Parce que j'ai eu un très gros accident de foie, donc j'ai le foie qui fonctionne mal. Et que là, je suis à bout de nerfs. Donc, soit je déploie une énergie considérable en l'espace de quelques heures, et puis après, paf. Mais si j'ai pas ça, je ne dors pas.
On entend bien, Élie, on entend votre désarroi, professeur Philippe Joury, quand on se retrouve face à une patiente qui a le profil d'Élie, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je suis un petit peu sans voix.
Non, on voit bien qu'il y a une grande souffrance sous-jacente qui n'a jamais été réglée depuis l'adolescence et probablement depuis avant. Quand elle parle d'anorexie boulimie, c'est l'adolescence. Et ce sont des problèmes psychiatriques lourds et graves et avec beaucoup de souffrance. Et on n'a pas beaucoup de solutions. C'est vrai qu'elle a essayé beaucoup de choses. Après, des fois, ça peut être la rencontre avec un médecin ou un psychiatre. Il y a des échecs, bien sûr. Il faut que ça corresponde. Lui dire de diminuer quand on peut pas, c'est pas de sa faute. Elle peut pas y arriver. c'est plus fort qu'elle, et puis il faut qu'elle dorme, et puis il faut qu'elle... Donc on est un peu coincé, c'est vrai que c'est difficile, mais peut-être qu'il faudrait rencontrer encore et encore un autre psy ou un autre médecin et tenir bon, et puis des fois, bah, ça fait partie des parcours qui sont très douloureux, surtout il faut reconnaître la souffrance, et plutôt que la double peine où on lui dit qu'elle a pas de volonté, qu'elle y arrive pas, que bah, il faut écouter sa souffrance, et puis il faut qu'elle puisse en parler de façon... mais reconnaître que le problème, il est de fond et que il est actuel, mais quand on parle d'anorexie boulimie, on voit bien les patients qui s'en sortent souvent à 40 ans, à 50 ans, ils ont d'autres problèmes. Ils ont balancé leur addiction. L'anorexie et la boulimie est considérée comme, actuellement comme une addiction. Donc ils ont modifié leur addiction, ils sont sortis de l'anorexie. Encore, elle dit qu'elle fait 40 kilos, donc elle n'est pas vraiment sortie. Ça dépend quelle taille elle fait.
Mais on peut bien comprendre que ça paraît insupportable quand on est dans une telle détresse. Certaines personnes qui peuvent vous répondre, on va dire, yaka, c'est insupportable.
C'est insupportable. C'est vraiment ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire que voilà, un peu de volonté, puis ça ira mieux. Il n'y a qu'à arrêter, il n'y a qu'à diminuer. Bon, mais qu'est-ce qu'on propose d'autre? C'est une prise en charge. Alors, il y en a qui s'en sortent. C'est vrai que dans les groupes, c'est toujours le problème des groupes, de pouvoir parler, de pouvoir se reconnaître, que d'autres ont les mêmes problèmes. Ça peut aider. Puis il y a des patients qui disent, moi, le groupe, je supporte pas. Donc, il y a plein de techniques aussi. Mais bon, Dakar, ils sont quand même, en général, ils ont ce qu'il faut par rapport à...
Mais j'ai bien entendu que c'était centaines de kilomètres.
J'ai bien entendu que c'était une européenne dans un contexte africain, ce qui complique encore les choses pour certains patients qui sont en grande souffrance comme elle.
Voilà. Élie, on vous souhaite, hein, malgré tout, malgré ce témoignage très très dur, très poignant, une bonne journée à Ziguinchor. On continue cet échange, professeur Philippe Jarry, médecin généraliste, addictologue, toujours en partenariat avec Votre Santé Magazine. On parle bien sûr des conséquences, hein, de ces addictions pour la santé. On a vu tout à l'heure avec nos auditeurs question de surdosage, mais aussi de sous-dosage quand on décide de soi-même d'arrêter, ou on peut avoir vraiment une situation de manque qui peut être douloureuse physiquement. On a eu finalement peu d'auditeurs qui nous ont parlé de l'une des plus grandes addictions. On pense bien sûr les plus usuelles, la cigarette, l'alcool, là aussi difficulté d'arrêter, même si par exemple pour la cigarette, en France, des dispositifs sont de plus en plus à portée de main de tout à chacun.
Bah, disons que pour le tabac, oui, une grande décision qui a été faite de rembourser les médicaments, de rembourser les patchs. C'était un peu surprenant à partir du moment où il y a une efficacité de ne pas les rembourser. D'augmenter le prix du tabac, c'est une chose, mais si on rembourse pas les médicaments, ça en est une autre. Donc là, c'était une grande avancée d'avoir à disposition des traitements qui sont efficaces. Le tabac, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le premier OGM qui a été fabriqué. C'est un OGM, c'est fait pour que les gens ne puissent pas arrêter. C'est volontaire, c'est un crime, mais c'est volontaire de la part des lobbies du des cigarettes. C'est au Mexique, je crois, qu'ils ont fait les premiers plans de tabac modifiés génétiquement. Et donc, c'est vraiment criminel. Autant l'alcool, il est pas modifié génétiquement, il rend dépendant. L'héroïne rend dépendant, mais ça n'a jamais été modifié génétiquement. Le cannabis, c'est encore différent, parce que le cannabis, de ma génération à moi, qui est un certain âge, quand on fumait des joints, c'était dosé à très très peu de tétrahydrocannabinol. Maintenant, c'est 20, 30 fois plus, 40 fois plus, 100 fois plus.
C'est quoi, parce qu'on a croisé les plans,
oui,
et qu'on a
donc c'est aussi modifié.
Surconcentré.
Complètement, c'est aussi modifié.
Le
de
principe
façon...
actif.
Mais là, c'est volontaire pour avoir une action, alors que pour le tabac, c'est volontaire pour rendre les gens dépendants et pour gagner des sous. Ce qui n'est pas la même
finalité. On va tout de suite avoir une autre illustration, puisque l'on part, professeur Philippe Jory, pour la Guinée.
RFI.
Et on vous retrouve, professeur Mamadi Mori Keïta, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir associé à cette émission.
Ça nous fait plaisir. Vous êtes psychiatre addictologue au sein du service de psychiatrie de l'hôpital national Donka Conakry. On va commencer par la situation en Guinée, si vous le voulez bien. Quelles sont les addictions, professeur Keïta, que vous prenez en charge dans votre consultation?
Ben, généralement, ce sont les addictions au cannabis, à l'alcool, au tabac, à la cocaïne et au valium, c'est-à-dire les benzodiazépines.
Avec là aussi des médicaments, est-ce que vos patients se livrent, parlent, expliquent ce qui les a menés vers telle ou telle dépendance, ou est-ce que finalement ces informations, il faut vraiment aller les chercher?
Bon, dans la majorité des cas, on va chercher ces informations. Il faut retenir que chaque patient qui nous arrive a ses propres motivations. Certains arrivent à la drogue pour mieux intégrer le groupe social auquel ils appartiennent, et sans avoir une connaissance préalable des effets ni des méfaits de la dite drogue sur leur organisme et leur comportement. Et d'autres viennent à la drogue simplement pour rechercher une performance, tant sur le plan sexuel, sur le plan professionnel que social, et d'autres encore pour lutter contre leurs propres émotions. Mais c'est des informations que nous allons le plus souvent chercher. C'est un peu différent de l'examen d'un patient en Europe, où le patient peut facilement livrer tout ce qu'il a comme problème.
Et justement, comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à votre consultation, professeur Keïta ? Le plus souvent, c'est de leur plein gré, ou ils sont conduits par quelqu'un de la famille, par un parent, par un frère ?
Oui, là, il faut dire que les patients arrivent le plus souvent sous contrainte de la famille, même si quelques adultes ayant pris déjà conscience de leur addiction viennent facilement et volontairement vers nous. Mais la majorité des jeunes et des adultes jeunes qui sont impliqués, c'est par suite de troubles de comportement observés par la famille qu'ils sont envoyés à l'hôpital.
Et vous diriez que ce sont essentiellement des hommes ?
Bon, il y a aussi des femmes, parce qu'on a constaté dans nos dernières études qu'il y a une féminisation très importante de la consommation de drogue en général, et en particulier autour de l'alcool, par les jeunes filles, et le cannabis aussi.
Et du côté de la prise en charge, professeur Mamadi Mori Keïta, qu'est-ce que vous proposez à ces personnes dépendantes ?
Bon, ben, il faut dire que devant les situations de dépendance à un produit, nous évaluons tout d'abord le patient à travers une échelle de Prochaska, comme le disait le professeur Philippe tout à l'heure. Et on recherche donc, à travers les entretiens motivationnels, la motivation réelle du patient avant de lui proposer un sevrage thérapeutique basé sur un contrat thérapeutique.
Et vous diriez que ce contrat, il est double, à la fois établir une relation de confiance, une relation humaine et en même temps médicamenteux ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, ce contrat est double. Mais tout d'abord, lorsque le patient arrive à le motiver, alors c'est lui qui demande en ce moment l'aide. Et une fois proposé, et là on peut le soumettre le contrat thérapeutique. Et lorsque le contrat est soumis, généralement il a un contenu et aussi des conséquences. Mais les conséquences ne posent pas de problème parce qu'on prend tout le temps pour expliquer au patient que ce contrat est fait pour le protéger de retomber dans son addiction.
Et si on prend une illustration avec l'alcool, par exemple, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge ?
Bon, dans notre dernière expérience, jusque-là, on utilisait la camposate comme d'habitude, pour la prise en charge des patients addicts à l'alcool. Mais depuis notre dernière intervention sur RFI le 15 janvier dernier, nous avons commencé à introduire le baclan, c'est le baclofène, disponible désormais dans nos pharmacies privées. Et vraiment, pour la petite anecdote, juste après cette émission, j'ai trouvé sur mon bureau des prospectus concernant le baclan. Et tout de suite, comme on nous a dit que c'est déjà disponible dans les pharmacies, j'ai introduit chez deux patients qui, depuis le mois de janvier maintenant, jusqu'à maintenant, alors sont restés vraiment abstinents. Et là, c'est un facteur très encourageant. Nous pensons que donc le baclofène peut faire vraiment la révolution dans la prise en charge de nos malades.
Parce que vous voulez dire que les personnes qui ont écouté l'émission Priorité Santé, ça les a convaincus de l'utilité du médicament ?
Tout à fait, tout à fait. Et moi, personnellement, je trouve satisfaction parce que ces deux patients qui constituent vraiment une illustration. Alors, je pense que les pharmacies maintenant nous invitent de part et d'autre pour que ce médicament soit prescrit.
Il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour améliorer la prévention des addictions en Guinée, professeur Keïta ?
Je peux dire que nous avons des mesures préventives envisagées. Il y a un comité de lutte contre la drogue qui comprend plusieurs volets pour le volet prévention. Alors nous avons la prévention primaire basée sur la sensibilisation, c'est-à-dire l'information, l'éducation et la communication sur la drogue. Et cela peut se faire dans les établissements scolaires, dans les garnisons militaires, secteur informel, et également introduire ce module de formation sur la drogue dans le cursus universitaire. Et également impliquer largement les masses médias qui constituent un maillon fort dans la sensibilisation de nos populations. Dans le cadre de la prévention secondaire, alors là, il s'agit des patients qui sont déjà dans la consommation et nous avons orienté vraiment une prise en charge adéquate en soumettant au gouvernement de créer des centres d'écoute dans les communes et qui vont recevoir les travailleurs sociaux pour orienter et écouter les jeunes. Et dans le cadre de la prévention tertiaire, là, il est important, encore une fois de plus, qu'il y ait mettre en place une politique de réinsertion sociale des sujets, entre guillemets, désintoxiqués et même des détenus libérés. Donc, il faut retenir que le problème d'addiction concernant largement la jeunesse concerne toute la population, donc ça doit mobiliser toutes les autorités ainsi que les ONG et qui œuvrent dans cette activité de lutte contre la drogue.
Merci beaucoup, professeur Mamadi Mori Keïta, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Pour en savoir plus, je renvoie les auditeurs à l'article que vous signez dans Votre Santé Magazine, focus sur les addictions en Guinée. Dossier très complet aussi sur le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, le CEPIAD.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
On se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec vous, professeur Philippe Jory, effort sur la prévention, accès aux produits de substitution et puis bien sûr le côté, on va dire, moral, pénal, volet répressif. Est-ce que ça joue un rôle, professeur Jory, dans la prise en charge des addictions?
Ah là, vous posez beaucoup de questions en même temps.
La loi. La loi, ça compte.
La loi, c'est important, hein, c'est un cadre. Il faut qu'il y ait une loi. Après, actuellement en France, on est sur la loi toujours de 1970, qui est quand même un peu datée et qui, je pense, pourrait changer par rapport à ce qui est la nouvelle société, au nouveau fonctionnement dans cette société. C'est important qu'il y ait un cadre.
Est-ce que les addictologues ont leur rôle à jouer justement dans l'évolution de ce texte, de ces textes, de cette loi?
C'est évident qu'à partir du moment où on est sur le terrain et qu'on connaît le terrain, et donc c'est quand même plus facile d'aider les politiques pour les aider dans ces lois, parce qu'on connaît les patients, on voit comment ça se passe, on voit l'évolution de la société, c'est évident. Je suis tout à fait sur la même ligne que mon collègue d'ailleurs, à tout point de vue au niveau de la prévention.
Au niveau des différentes strates, il faut agir vraiment sur différents paliers.
Nous, on rajoute un quatrième, la prévention quaternaire, qui est la déprescription.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que les patients, ils ont souvent beaucoup de médicaments qu'on renouvelle sans se poser la question pourquoi ils les prennent et s'ils en ont encore besoin.
Un mésusage, on va dire, mais à des fins...
Ils sont renouvelés par les médecins, comme la patiente qui a dit, voilà, on augmente ses doses, on change de médicament. Et voilà, il faut se poser la question, quand on renouvelle une ordonnance, est-ce que c'est toujours utile? Est-ce que c'est toujours nécessaire?
Merci beaucoup, professeur Philippe Jory. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste addictologue, également professeur de médecine générale à l'Université Paris-Descartes. Et merci à l'équipe de Votre Santé Magazine, partenaire de cette émission, premier magazine panafricain d'information sur la santé. On retrouvera prochainement, bien sûr, dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Zika, ce virus, on en avait beaucoup parlé à l'occasion de la grande épidémie qui avait touché l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, on s'en souvient, en 2016. Épidémie à la fois spectaculaire et assez énigmatique lorsque les contaminations avaient chuté massivement en 2017. Alors, pour en savoir plus sur la circulation de ce virus, les chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS ont travaillé sur l'épidémie en Thaïlande. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Henrik Salier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au sein de l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Nous avons enregistré cet entretien alors que vous trouvez en ce moment en Thaïlande, à Bangkok précisément. Avant de parler de cette étude thaïlandaise, Henrik Salier, si vous le voulez bien, quelques précisions sur Zika, sur ce virus. Comment est-ce qu'il se fait que ce virus soit complexe à étudier, complexe à diagnostiquer?
Oui, alors la plupart des gens, quand ils sont infectés, ils ne se rendent pas compte parce que les symptômes sont normalement pas trop graves du tout. C'est seulement dans l'épidémie de l'Amérique du Sud qu'on s'est rendu compte avec le lien avec microcéphalie dans les nouveaux-nés.
Alors, est-ce que justement, Henrik Salier, on peut confondre Zika avec d'autres maladies, par exemple avec certains signes comme une petite fièvre?
Oui, absolument. La grippe ou la dengue qui circule tout le temps dans les pays où on trouve Zika parce qu'elle est transmise par le même moustique.
Alors, au sujet précisément de l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, cette étude thaïlandaise, est-ce que vous savez depuis quand Zika a fait son apparition dans le royaume de Thaïlande?
On peut utiliser des méthodes qui regardent la séquence du virus. Et utilisant ces méthodes, on peut estimer que il y avait Zika dans Thaïlande depuis au moins 2002 et peut-être même avant cette date aussi.
Ce sont des études génétiques qui sont effectuées sur quel type de prélèvement?
Dans les quelques cas où on a trouvé des gens qui étaient infectés avec Zika, on peut isoler le virus et après comparer les séquences des différents virus. On peut estimer la date d'introduction dans le pays.
Est-ce que justement on a pu comparer avec le virus latino-américain, celui qui avait sévi au Brésil, et est-ce qu'il s'agit d'un virus identique, Henrik Salier?
Oui, c'est très similaire, mais pas complètement identique. En fait, le virus qui a eu en Brésil est le virus qui circulait avant en Asie. Et après, en 2014, il a sorti d'Asie et est introduit dans l'Amérique du Sud. Et ce virus, c'est clair, a continué de circuler en Thaïlande et non en d'autres pays dans l'Asie.
Et au niveau du territoire thaïlandais, est-ce que l'on sait si le virus est présent sur l'ensemble du pays ou seulement dans certaines régions?
Le gouvernement, en fait, a trouvé le virus plus ou moins partout dans le pays. Nord, sud, nord-est et central.
Et ce virus, il est présent depuis longtemps? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de résistance?
C'est une superbe question et on ne sait pas exactement la réponse. On pense qu'il y a un peu d'immunité dans la population, mais il reste encore beaucoup de gens qui sont susceptibles.
Et est-ce qu'on a constaté des complications comme celles dont on parlait tout à l'heure, avec par exemple ces microcéphalies, ces déformations physiques chez des enfants nés de mamans qui étaient porteuses du virus?
Oui, ils ont aussi trouvé des cas de microcéphalie et aussi de Guillain-Barré syndrome, qui est aussi associé avec l'infection par Zika.
Syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome neurologique qui peut conduire à des arrêts respiratoires, par exemple.
Exactement, oui. Le gouvernement ici, oui, il cherche ces cas et cherche aussi pour des cas de Zika.
Merci beaucoup, Henrik Salier, d'avoir été en ligne de Bangkok, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Je rappelle que vous êtes chercheur au sein de l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Priorité santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Louise Calédec, Fabien Mugneret, Laurence Snow aujourd'hui.
Santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.